civisme et droits du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droits du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droits du citoyen, une émission de la web radio AWEVI présentée par Spirou Maoulé. Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. AWEVI Info, l'information comme si vous y étiez.
Chers auditeurs de AWEVI Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien des choses à vous. À chaque conflit spécifique doit correspondre un mode de résolution opportun et adapté. Ainsi, le règlement judiciaire trouve ses limites dans la complexité ou la délicatesse de certains conflits, de sorte que la société a imaginé d'autres voies de résolution qui parfois correspondent au mode de résolution ancestral des conflits que nous avons connu en Afrique traditionnelle. Je voudrais faire allusion au règlement des conflits sous l'arbre à palabre. On a inventé l'arbitrage. On a allé à la médiation. On n'a pas oublié la conciliation. Mais aujourd'hui, le mécanisme de règlement qui nous intéresse et pour lequel nous allons faire notre émission de ce jour est la justice transitionnelle, qui est une façon aussi de rendre la justice. En 2006, le haut commissaire aux droits de l'homme, Madame Louise Abou, disait, je cite alors, « La justice transitionnelle doit ambitionner d'aider les sociétés injustes du passé par des mesures visant à rendre possible un avenir équitable. Elle doit connaître des crimes et violations commis au cours du conflit à l'origine de la transition, mais aussi s'intéresser à ce que cachent ces infractions en même temps que remédier aux violations des droits de l'homme qui ont précédé le conflit et l'ont causé ou y ont contribué. Fin de citation. On comprend, selon les dires de Madame Abou, que en réalité, la justice transitionnelle est le mécanisme qui permet de régler les conflits dans lesquels il y a eu, par exemple, des génocides, ou alors il y a eu des tueries en masse, ou alors il y a eu des dysfonctionnements de pays au point que beaucoup de personnes y sont impliquées et que la justice ordinaire ne pourrait pas faire face à ces éléments-là. Pour bien comprendre un peu tout ça de ce que nous appelons la justice transitionnelle, nous avons un invité. Nous avons avec nous au studio Dr Tchamba Norbert. Norbert, bonsoir.
Bonsoir, cher sœur.
Norbert est connu comme étant un enseignant dans les écoles supérieures, privées, publiques, oui. Mais il a, en principe, il tient les cours de communication. Et nous l'avons aujourd'hui à titre de directeur exécutif du comité d'appui aux réformes institutionnelles et juridictionnelles. Norbert, pour nos auditeurs qui aiment les choses en français très simple, appui aux réformes institutionnelles et juridictionnelles, vous mettez quoi dedans, dans ce comité-là?
Merci beaucoup, mon frère Spéro. Lorsqu'on parle d'appui institutionnel et juridictionnel, c'est l'accompagnement des institutions publiques ou privées dans les innovations qui se prêtent à notre quotidien. Nous avons été dans un moment sur certaines institutions qui étaient dépassées et il a fallu les renouveler en tenant compte des nouvelles conditions de l'environnement. Et le comité, notre ONG, s'est donné pour devoir de faire des études, de faire des propositions et d'accompagner, que ce soit les institutions publiques ou privées, dans l'implantation ou l'instauration de ces différentes réformes.
Et c'est surtout des réformes institutionnelles et juridictionnelles.
Effectivement.
Au niveau des institutions juridictionnelles, qu'est-ce que vous avez peut-être pu faire concrètement à ce moment, jusqu'à maintenant, juridictionnel?
Nous dirons que de 2012 à 2018, notre organisation a permis à plusieurs personnes détenues de pouvoir sortir des liens de l'emprisonnement à travers l'organisation des audiences foraines. Et c'était pour permettre à ces personnes d'avoir une seconde chance pour vivre encore dans leur communauté. Alors, donc, l'organisation de ces audiences foraines ne rentrait pas dans le cadre du fonctionnement des tribunaux et cours, mais nous l'avons organisée pour donner une seconde chance à ces détenus et en même temps pour désengorger les prisons qui sont, ma foi, aujourd'hui au double de leur capacité.
Et pour information à nos auditeurs, vous êtes donc une ONG pour le moment purement nationale.
Oui, effectivement, nous sommes basés à Lomé, au Togo, mais nous avons des actions qui vont au-delà de notre pays, le Togo, pour ne pas dire la sous-région ouest-africaine.
Ok. Voilà, juste encore pour information, il y a eu une surpopulation carcérale qui était constituée essentiellement par des prévenus et non des détenus. Mmh. Donc, des gens qui n'ont pas encore été jugés. Et donc, vous dites avoir aidé à accélérer un peu le processus de jugement, de procès de ces gens-là pour pouvoir dire s'ils sont coupables ou pas.
Effectivement, nous avons organisé depuis 2012 à chaque année une tournée dans au moins 4 juridictions qui ont bien sûr une prison dans, sous leur juridiction. Et on a pu libérer de 2012 à 2018 près de 180 détenus que nous avons orientés vers certains centres de réinsertion. En l'occurrence, le centre Remar qui est à Gou, à Veillé, et une représentation ici à Lomé, au quartier à Tigangomé.
Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose de libérer cette détenue-là quand on sait que généralement la population se plaint qu'à chaque fois qu'il y a eu des grâces présidentielles pour libérer des prisonniers, il y a une recrudescence du banditisme urbain?
Oui, je dirais que c'est une seconde chance qu'on a voulu donner à ces personnes. On voulait leur donner une seconde chance. Et en principe, lorsque vous voyez des gens en prison, dans nos prisons ici au Togo, c'est des gens qui sont oisifs, ils ne font rien. En principe, ils devaient travailler pour pouvoir nourrir. C'est des bras valides. C'est des bras valides. Notre intention, c'était de les mettre à contribution dans le développement du pays. Mais malheureusement, nous n'avons pas été accompagnés par des mesures sécuritaires pour les maintenir dans ces centres de réinsertion. Et c'est ça qui explique le fait qu'on les voit récidiver quelquefois. Mais sinon, sur cet effectif que j'ai donné, il y en a quand même qui ont pu se réinsérer dans leur communauté. Aujourd'hui, c'est des personnes bien assises avec leur famille.
Est-ce qu'il n'aurait pas été possible, au lieu de parler de réinsertion actuellement, de penser plutôt à accompagner l'État togolais pour organiser, par exemple, des travaux d'intérêt général que ces prisonniers-là doivent faire pendant leur période de détention?
Pour le faire, il faut un cadre réglementaire. Et nous avons eu la chance de conduire une étude qui devait permettre d'élaborer la politique nationale de réinsertion. Donc, c'est dans cette politique-là que l'État pouvait instaurer les travaux d'intérêt général. À l'époque, quand nous étions enfants, nous avons vu des prisonniers qui étaient chargés d'entretenir les rues. Et on les appelait des PKS, des PKK. Et bon, ils étaient là, ils étaient vraiment conscients que ils ont commis une faute et ils étaient en train de réparer la faute en travaillant pour la communauté. Ils tenaient nos rues propres. Et après, après qu'ils aient purgé leur peine, ils ont regagné leur famille. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'évolution a fait de telle sorte que quand la personne a une petite faille, elle cherche à s'évader pour aller refaire une autre vie, une autre victime. Si je dis une vie, c'est comme s'il faisait vraiment de bonnes choses, pour aller faire une autre victime. Donc, nous espérons que très, très bientôt, la politique nationale de réinsertion va être adoptée. Là, on pourra mieux encadrer nos personnes sous main de justice à être utiles à travers les travaux d'intérêt général. Donc, ils peuvent être des maçons, ils peuvent être des menuisiers, ils peuvent être des maraîchers, pourquoi pas, et des éleveurs.
En parlant de cela, moi, je faisais surtout référence à nos vastes plaines de Lomé jusqu'à Dapaon, qui sont incultes, incultivées. Est-ce que ce n'est pas possible que, de façon très simple, on prenne un camion chaque jour avec des gendarmes ou des gardes pénitentiaires pour les amener là-bas et travailler et puis les faire revenir à Lomé? Dans ce cas, il y aurait moins de risques qu'ils puissent fuir.
Eh bien, c'est possible de le faire. Alors, pour préciser, la prison d'Agombio, vous connaissez bien cette histoire.
Oui, c'est tristement célèbre.
Tristement célèbre, prison d'Agombio, mais aujourd'hui, il n'y a presque pas de détenus là-bas. La prison d'Agombio pouvait être réhabilitée et accueillir beaucoup de personnes qui sont sous main de justice et les faire travailler avec un encadrement bien fait. Lorsque vous parlez de mettre ces personnes dans des voitures et les amener, le problème a été déjà évoqué, mais les gardiens des prisons, c'est-à-dire les SAP, les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en nombre insuffisant. Depuis le premier recrutement qui a eu lieu, on n'a pas eu de nouveau recrutement. Or, dans cette vague-là, il y a eu des défections. Donc, l'effectif est de moins en moins réduit.
Absolument.
Voilà. Oui. Donc, vous voyez qu'avec le problème sécuritaire que nous connaissons, on ne peut pas non plus affecter des gendarmes à cette tâche. Donc, vous voyez que la seule alternative, c'est de conscientiser des personnes qui sont sous main de justice. Et notre proposition à l'époque, c'était de prendre ceux à qui il reste 3 mois ou 6 mois, ou les petits larcins, les gens qui sont pris pour vol de téléphone, vol de chèvre, vol de mouton, qu'on devait amener. Parce qu'on sait que ces personnes, quand on les mettra devant une activité, et ça les occupera et on pourra mieux les réinsérer dans la communauté.
Je comprends que la réinsertion est un souci permanent pour votre comité, mais je pense aussi qu'on peut toujours réfléchir autrement parce que il est possible que le travail qui serait fourni par les prisonniers pendant leur période de détention, que ces travaux-là puissent leur permettre de générer des flux économiques et qui pourraient être utilisés pour eux plus tard pour la réinsertion. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réactiver un peu vos propositions pour que, au lieu de les baser uniquement sur la réinsertion, que ça soit plutôt sur comment les conditions de détention même, parce que c'est tout le monde se plaint qu'on les nourrit mal et les conditions de détention ne sont pas bonnes. Mais c'est quand même beaucoup de personnes qui ne font rien, qui doivent manger sur un budget de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir autrement?
Merci beaucoup pour cette question. Si le rapport de notre étude avait été déjà transformé en politique de réinsertion, toutes ces propositions ont été faites. En principe, le revenu que génère chaque personne sous main de justice devait être divisé en 3 parties. La première partie devait permettre de réparer le tort causé. La deuxième partie devait permettre de le nourrir pendant sa période de détention. Et la troisième partie constitue un pécune pour sa réinsertion. Voilà les propositions que nous avons faites dans le rapport. À partir du moment où il n'y a pas encore une base juridique de cette réinsertion, je crois que c'est ce qui ralentit encore les activités.
Nous espérons donc que toutes les oreilles utiles et opportunes qui nous écoutent pourraient remettre sur pied cette histoire-là pour pouvoir faire les choses mieux. Mais avant de passer à autre chose, il y a l'aspect appui aux réformes institutionnelles aussi. Est-ce que vous aviez quand même, au niveau de votre comité, essayé de faire des choses dans ce sens-là?
Au niveau des réformes institutionnelles, nous n'avons pas intervenu au niveau étatique, c'est-à-dire dans le public, mais avec les institutions privées, on en a beaucoup fait parce que nous avons participé quelque part aux études préliminaires pour l'installation ou l'instauration des mutuelles de santé de 2011 à 2012, avec Louvain Coopération, on a fait des études qui ont permis la création des mutuelles de santé qui a évolué aujourd'hui à INAM au niveau étatique. Là, nous l'avons fait aussi bien au Togo ici qu'au Bénin. Alors, donc, ça, c'est pour ce volet. Mais à part cet aspect, on n'a pas vraiment travailler sur ces questions.
Nous rentrons bientôt complètement dans la 5e République. Nous espérons que votre comité serait un point d'appui pour les gouvernants pour nous aider à avoir une meilleure gestion de cette 5e République qui est une nouveauté pour nous. Puisque le régime parlementaire n'est pas encore expérimenté. Et donc, nous espérons qu'on pourrait compter sur votre comité pour nous accompagner. Cependant, vous nous accompagnez déjà, l'État togolais, je pense, ou d'autres États, au niveau de la justice transitionnelle. Alors, la question que je pose, C'est quoi d'abord la justice? Quels sont les principes et quelles sont les missions de la justice?
Alors, merci pour cette question. Lorsqu'on parle de justice, tout de suite, il faut penser à l'équité, il faut penser aux droits. Et l'équité, c'est que chacun a droit à ce dont il mérite. Tout le monde doit être libre et vivre tranquillement dans la cité. Et la justice est là pour rappeler aux personnes qui débordent sur le droit chemin. On veut demander à tous ceux-là qui sont, entre guillemets, des égarés, alors revenez, on les rappelle à l'ordre en quelque sorte. Voilà. Alors donc, dans cette perspective, la mission, c'est de faire respecter les droits des uns et des autres.
Est-ce que la justice elle-même est juste?
Eh bien, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que ce sont les hommes qui font la justice. Et l'homme étant imparfait, il y a toujours des penchants à des niveaux et on pêche involontairement. Donc, mais dans l'ensemble, la justice devait être juste.
La justice devait être juste et elle se prend souvent sous la forme d'une justice civile, d'une justice pénale, d'une justice commerciale. Vous nous invitez avec une autre justice, la justice transitionnelle. Qu'est-ce que c'est et quel est son lien par rapport à la justice pénale?
Merci beaucoup pour cette question. Lorsqu'on parle de justice transitionnelle, c'est une justice qui permet à un État de passer d'une période où on a commis des exactions, on a commis des violences, on a connu une dictature féroce, on a brimé les droits des gens, vers une démocratie. Or, pour le faire, on ne peut pas tout de suite quitter un état de dictature à la démocratie. Il faut passer par une transition. Et la justice qui va être faite dans cette période, nous l'appelons justice transitionnelle. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette justice transitionnelle est en même temps une justice mixte, parce qu'elle prend en compte les principes du droit moderne et la justice traditionnelle. Et dans son fonctionnement, on reconnaît les étapes de la justice traditionnelle. Au même moment, on respecte également les principes et les règles du droit moderne.
Est-ce à dire qu'on ne peut faire la justice transitionnelle que s'il y a une transition?
Bien sûr, parce que si tout va bien, pourquoi on va faire une justice transitionnelle? Si nous avions vécu un bon moment, personne ne se plaint d'être brimé, on ne parlerait pas de justice transitionnelle parce que nous aspirons à une liberté, tout le monde aspire à un état de droit, alors il faut quitter l'état de dictature, l'état de violence, l'état de massacre ou de génocide comme nous l'avons connu dans d'autres pays, à un état stable où tout le monde est libre d'exercer l'activité qu'il veut et aller où il veut, mener les activités de toutes sortes qu'il veut pourvu qu'il respecte les droits des autres.
Est-ce que ça voulait dire que le principe de la justice transitionnelle repose uniquement sur la transition? Est-ce que ça voulait dire que s'il y a un pays qui ne fait pas la transition, est-ce qu'il ne peut pas avoir la justice transitionnelle?
Je peux dire oui, parce que les pays soi-disant développés ne parlent pas de justice transitionnelle dès maintenant. Parce que les pays comme la France n'ont jamais parlé de justice transitionnelle à l'heure actuelle. Et c'est seul en Amérique latine que ce concept a été évoqué pour la première fois. Et en Afrique, on l'a évoqué après les soi-disant indépendances, On arrive au vent de l'Est dans les années 90 avec tout ce que ça comportait comme violation des droits humains. Bon, c'est dans ces pays-là qu'on parle beaucoup plus de justice transitionnelle. Aux États-Unis d'Amérique, on ne parle pas, on n'a pas parlé de justice transitionnelle. Mais en France également, on n'en a pas parlé. Dans les pays africains, dans les pays de l'Amérique latine, on parle de la justice transitionnelle. Alors, peut-être que si on se réfère à un passé lointain de l'Europe, on pourrait parler de justice transitionnelle quand ils ont quitté les empires et les royaumes pour rentrer dans les républiques. On pouvait parler de justice transitionnelle. Mais depuis qu'ils nous sont venus nous coloniser, nous mettre dans les conditions que vous connaissez bien, mais ils ne parlent plus de justice transitionnelle. Par contre, en Afrique, on continue de parler de justice transitionnelle. Aucun pays africain ne peut dire qu'il était droit et qu'il n'a pas besoin de justice transitionnelle. Tous les pays africains ont besoin de la justice transitionnelle pour passer à une étape où tout le monde est libre de vivre la démocratie, et bien sûr à l'africaine.
Merci. Vivre la démocratie à l'africaine, est-ce que ça, c'est pas encore... c'est peut-être l'idée utopiste qui disent qu'il y a une démocratie africaine et il y a une démocratie occidentale.
Moi, je ne pense pas que ce soit une utopie parce que lorsque vous prenez les Américains, ils ont leur manière de gouverner et qu'ils imposent, qu'ils tentent d'imposer au reste du monde. Mais lorsqu'ils vont en Chine, les Chinois ont également leur démocratie à eux. Même si les Américains appellent cette démocratie dictature, eux, c'est leur démocratie à eux. Les Chinois ne se sont jamais plaints du fait qu'ils sont dans ces conditions. Les Indiens non plus ne se sont jamais plaints du fait qu'ils soient dans ces conditions. Les Russes ne se sont jamais plaints du fait qu'ils soient dans ces conditions.
Est-ce que c'est sûr que les Russes ne se sont pas plaints? On a le célèbre opposant Navalny qui parlait de dictature.
Moi, je pense que Navalny n'est qu'un petit manipulé comme l'est le président ukrainien actuel.
Une position personnelle.
Bon, ça, c'est ma position personnelle. Je ne la partage pas pour tout le monde.
Donc, vous pensez qu'on pourrait avoir une démocratie africaine avec ses spécificités qui ne correspondraient pas à la démocratie occidentale?
Peut-être qu'on aurait certains points communs, mais nous aurons nos particularités à nous. Parce que lorsque vous prenez un peu la démocratie occidentale, c'est basé quelque part sur leur civilisation à eux. Et nous aussi, nous avons eu notre civilisation. Pourquoi ne pas bâtir notre démocratie sur notre civilisation à nous?
Il y a des caractéristiques propres de notre civilisation qui peuvent faire l'objet d'une démocratie?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je peux donner le cas de... De la justice traditionnelle en pays Tem, que les gens ont appelé le royaume Chaozhou. Le royaume Chaozhou avait une justice qui ressemble à une démocratie parce que la chefferie était tournante dans les 7 villages constitutifs du royaume Chaozhou. Et aucun roi ne préparait son fils à être prochain roi. Parce que le roi, quand il finit ses 2 mandats, c'est que la royauté passe au prochain village. Et ça, c'était avant l'arrivée du colonisateur. Ça, c'est un petit clin d'œil que je fais sur nos us et coutumes ou notre organisation traditionnelle. C'était notre démocratie à nous. C'est-à-dire ce que nous appelons une chefferie rotative.
Oui, voilà. On a de ces histoires-là, voilà. Mais les Européens nous ont reproché notre barbarie, notre sauvagerie. Est-ce que vous croyez que c'était juste pour nous une manipulation ou c'est vraiment de la sauvagerie?
Moi, je pense que c'était une manipulation pour pouvoir mettre la main sur nos richesses. En principe, quand vous voyez un peu ce qu'ils veulent actuellement en l'Occident, beaucoup d'Occidentaux viennent, on en a vu à Ouida, qui viennent s'initier au vaudou. Alors, si c'est de la barbarie, pourquoi ils viennent s'initier
au culte vaudou n'est pas assimilé à la barbarie. Mais il y a, par exemple, de ces situations où pour que le roi soit enterré, il faut tuer d'autres personnes qui vont être enterrées avec le roi.
Ça, c'était vraiment des superstitions parce qu'en pays Thème, l'histoire que je connais très bien, on ne tuait que les criminels et on le tuait en public pour servir de leçon aux candidats au meurtre. Et on ne tuait pas dans ces gens-là. Ou dans des quelques rares cas, lorsqu'il y avait des calamités, il y a des gens qui se donnaient eux-mêmes volontiers pour être sacrifiés en vue de sauver d'autres. Et ce n'est pas seulement un pays Thème. Lorsque vous prenez un peu l'histoire des Baoulés en Côte d'Ivoire, la reine Poku a sacrifié son fils pour pouvoir sauver son peuple. Et ça, ça n'a pas été caractérisé comme de la barbarie. Même en Europe, moi je ne pense pas que ce soit l'Afrique seule. Selon les dires, il y a les Vikings, je ne les connais pas très bien, il semble qu'ils étaient plus barbares que les Africains. Ils faisaient des sacrifices humains. Et selon ce que j'aurais appris, ils continuent même de le faire en cachette. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas en Occident?
Est-ce que ce n'est pas alors les Européens qui nous ont envoyé la justice transitionnelle?
Je dirais que nous avions notre justice transitionnelle, mais eux, ils ont voulu appeler ça justice. Ils ont voulu masquer l'appellation en lui donnant le nom de justice transitionnelle. Quand vous le prenez, ce qu'ils appellent justice transitionnelle, c'est la justice traditionnelle africaine. Ce que j'ai décrit, vous pouvez le retrouver au Bénin, avec les Yoruba. Vous allez au Nigeria également avec les Yoruba. Vous allez trouver ces mêmes principes. Okay. Les Blancs, comme ils voulaient essayer de se saisir de la chose, ils ont parlé de justice transitionnelle.
Sur ce que le Blanc appelait justice transitionnelle, il y a quand même des États, des pays qui ont fait l'expérience sur le continent africain. Je peux citer par exemple le Rwanda. Est-ce que ce que le Rwanda a fait est proche de la justice ou est proche de la tradition africaine, comme vous le dites?
Nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Lorsque vous parlez de l'exemple du Rwanda, il y a eu un génocide où on a massacré et on connaît qui sont ceux qui étaient les commanditaires.
Il y a des présomptions.
Il y a des présomptions.
Oui, voilà. Mais il n'y a pas de certitude. Voilà.
Mais lorsque il y a eu toute cette tuerie, s'il fallait s'en tenir à la justice pénale pour résoudre ce problème, je crois que le Rwanda ne devait pas être reconstruit comme nous le connaissons aujourd'hui, tout comme le Burundi ou le Kenya. Alors, il a fallu faire recours à ce mécanisme endogène qui dit de regarder le bourreau, de mettre en face à face le bourreau et la victime. Le bourreau va regarder la victime en face, reconnaître son tort, présenter ses excuses, réparer en vue de faire une réconciliation. Ça, ce sont les différentes étapes de la justice traditionnelle qui sont appropriées aujourd'hui par la justice transitionnelle.
Donc, c'était quelque chose qui se faisait en Afrique?
Bien sûr. Exactement comme je l'ai décrit. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se fait. Je me réfère toujours à la justice traditionnelle Thème. En pays Thème, dans le royaume, il y avait le souverain qui était appelé le roi Dieu. En Thème, on appelait Uro Eso. Alors, dans la cour du roi Dieu, il était entouré des notables. Et le jugement se faisait par les notables. Et on n'avait pas besoin d'avocat. tout le monde pouvait contribuer à rétablir la justice. La première étape était la saisine. La deuxième étape, le jugement, donc le jugement contradictoire, la prise de parole. Et lorsque quelqu'un est reconnu coupable, on demandait à la personne de réparer le tort. Et quand vous réparez le tort, vous faites la réconciliation. Et je peux vous raconter une petite histoire. Quand on vous prenait pour meurtre, vous avez tué un homme. Je suppose que c'est le père de famille que vous avez tué. On met les veuves et les orphelins en face du criminel. Et le criminel reconnaît avoir tué le papa. La justice Thème disait que vous, criminel, désormais, vous devez travailler pour nourrir votre famille et nourrir la famille de votre victime, jusqu'à la majorité des enfants.
Oui, mais ça ne faisait pas revenir le défunt.
Bien sûr que ça ne pouvait pas revenir le défunt, mais ça permettait d'apaiser l'âme du défunt. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire que quand vous voyez un peu la justice transitionnelle, elle veut respecter l'homme dans ses quatre dimensions, à savoir le corps, l'âme, l'esprit et la silhouette. Beaucoup de personnes se plaignent qu'il y a certains carrefours ou certains endroits
où il y a beaucoup d'accidents.
Ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'il y a une âme errante qui est en train de chercher sa place. Alors, dans son affolement, elle peut causer des collisions.
Nous avons compris, mais disons que ce n'est pas très cartésien tout ça là. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. Mais revenons quand même à la justice transitionnelle. Vous, on a évoqué le Rwanda avec son génocide qui a entraîné la justice transitionnelle. Il y a également l'Afrique du Sud qui a fait la justice transitionnelle.
Effectivement.
Est-ce que c'est pas la même chose, non?
L'Afrique du Sud a adopté un autre principe. Je dirais ici que chaque pays a sa culture. Et c'est en fonction de votre culture que vous faites recours à un dispositif qui permet d'apaiser les cœurs des uns et des autres. En Afrique du Sud, ils ont adopté une autre méthode. Et on a vu sur les chaînes des bourreaux regarder les blancs qui ont regardé les noirs en face et ils ont fondu en larmes.
Il y en a qui n'ont pas eu de regrets. Hein?
Oui, il y en a qui n'ont pas eu de regrets, effectivement, parce qu'ils sont toujours restés dans leur tête que le noir est un sous-homme pour eux. Dans leur tête, le noir est un sous-homme. Quand vous prenez le cas du Rwanda, tous ceux qui ont été mis en cause, ils ont regretté et ils ont pris l'engagement de ne plus recommettre ces mêmes exactions.
Ok, voilà. On a vu, donc ça a marché au Rwanda, ça a marché
en Afrique du Sud.
On l'a expérimenté au Togo. Oui. Alors, vous dites tout à l'heure que chaque pays avec sa spécificité. Ouais. C'est peut-être l'occasion de rendre encore une fois hommage à Monseigneur Bariga de vénérée mémoire, qui a été le pilier de ce processus-là. Est-ce que vous croyez qu'on avait besoin de justice transitionnelle au Togo?
Nous avions effectivement besoin d'une justice transitionnelle parce que quand vous prenez la période qui a été retenue pour faire l'enquête, c'est de 1958 à 2005. Vous et moi, vous avez eu... Bon, je sais que nous sommes nés après les années 1970, mais... nous avons appris ce qui s'est passé avant les indépendances. Avant les indépendances, il y a eu vraiment des exactions, des brimades, des déportations, des travaux forcés, des brimades des droits de l'homme. Et en 2005 également, on a vu ce qui s'est passé, sans parler du moins des années 1990 avec le vent de l'Est, où on a vu ce qui s'est passé à Fréau Jardin et autres. Donc il fallait qu'on puisse vraiment mettre la balle à terre, mettre table rase, faire le point de ce qui a été fait et demander publiquement pardon. Alors, mais je dirais que ce travail qui a été conduit par Monseigneur paix à son âme avait permis de collecter, je crois, 2415 victimes. 2415 victimes ont été recensées. Et sur les 2415, beaucoup ont été indemnisés. Mais ce que nous avons déploré au niveau de la justice transitionnelle au Togo, c'est que les bourreaux n'ont pas demandé pardon en regardant droit dans les yeux les victimes. Seul le chef de l'État a pris sur lui de demander pardon au nom des autres. Nous aurions souhaité que ceux-là qui ont été mis en cause, parce qu'il y en a qui sont encore en vie, il y a les bourreaux qui sont encore en vie, qui sont connus et qui ont été mis en cause dans le rapport. Et il serait bien qu'on puisse les mettre en face de leurs bourreaux pour qu'ils disent, qu'ils demandent pardon. On a vu comment les gens ont été décapités à Bodjé et dans le Cloto. Au moins, il fallait qu'on mette les victimes, c'est-à-dire les orphelins de ces gens-là, face des bourreaux qui vont demander pardon et qu'on puisse vraiment revoir. Bon, je crois qu'on ne pouvait pas faire la même chose que les autres. Nous l'avons fait à notre manière. Et on a pu quand même faire. Et les indemnisations continuent, à ce que je ne sache. Les informations faisaient mention que très, très bientôt, il y aura encore une série d'indemnisations de ces différentes victimes.
Et quelle que soit la spécificité du pays qui lance la justice transitionnelle, il y a quand même des piliers qui sont là. Est-ce qu'au regard des piliers, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la justice transitionnelle peut marcher ou n'a pas marché ou marchera?
Je dirais que les spécificités sont fondées sur un document qui a été paraffé par les chefs d'État en février 2019 à Addis Abeba. En l'occurrence, le document de politique de justice transitionnelle de l'Union africaine. Dans ce document, il a été institué un certain nombre de principes qui devaient être respectés par tous les États. Et dans ces principes, c'est qu'on devait s'approprier cette politique au niveau national et au niveau local. Mais malheureusement, au Togo ici, si vous promenez le micro dans la rue, je crois que sur 10 personnes, peut-être une seule personne pourra vous dire exactement ce que c'est la justice transitionnelle au Togo. Tous vous parleront de l'indemnisation. Pour eux, la justice transitionnelle se résume à l'indemnisation des victimes. Et pourtant, ce n'est pas la seule étape de la justice transitionnelle.
Mais quels sont alors les autres piliers? Parce que si ce n'est pas ça la seule, quels sont les autres piliers de, ou alors quels sont les piliers de la, alors je pense que en les citant, ça pourrait permettre à ceux qui ne connaissent pas de voir maintenant si c'est bon ou pas.
Alors lorsque nous parlons de justice transitionnelle, il faudrait dans un premier temps faire une études comme la CVJR l'a fait, on a vu les victimes, on a décelé les bourreaux. Il fallait à la suite mettre en place une institution qui sera chargée de faire la réparation.
Donc, dans un premier temps, il faut établir la vérité.
La vérité, établir la vérité à travers.
Donc, tout doit être dit. En vérité, rien qu'en vérité.
Rien que la vérité. Pourquoi? On se regarde droit dans les yeux et on se dit, ah, vraiment, c'est moi qui ai tué ton parent et je regrette.
Donc, première étape,
la vérité. Établir la vérité. Deuxième étape, oui. Regretter l'acte.
Et qui regrette? Le bourreau.
Le bourreau doit regretter l'acte qu'il a posé. Maintenant qu'il a regretté l'acte, il faut réparer le tort. Et réparer le tort, c'est à divers degrés. Si c'est tout un village qui a été brûlé, là, ça veut dire que la faute incombe à l'État qu'on puisse reconstruire les habitations et ramener les gens à leur milieu habituel. Et si c'est individuel,
oui.
Là, ça va dépendre de ce qui a été fait. Si c'est des traumatismes, là, il y a des psychologues qui vont accompagner et on pourra également, dans une large mesure, indemniser les gens pour les insérer ou les accompagner dans leur réinsertion.
Mais la justice traditionnelle s'appuie d'abord sur la justice. Alors, est-ce qu'au nom de cette justice-là, si on a l'impression que les gens n'ont pas dit la vérité, est-ce que l'État ne pourrait pas exiger que la vérité soit faite entièrement?
Lorsque nous disons que la justice traditionnelle se fonde sur la justice, on fait allusion à la justice pénale, parce que c'est des crimes qui sont commis. Or, lorsque vous voyez la manière dont la justice pénale est faite, on se rend compte qu'elle laisse les deux parties dos à dos. Parce que lorsque on finit le jugement, on demande la réparation et on se préoccupe peu de la réconciliation. Alors qu'on devait évoluer vers cette réconciliation qui est l'une des étapes de la justice transitionnelle. Parce que c'est avec la réconciliation qu'on arrive à avoir la cohésion sociale, un climat de paix qui est la base de tout développement. Parce que quand vous êtes libre de vos mouvements, vous êtes libre d'exercer vos activités dans le respect des droits des uns et des autres, là, vous pouvez mener ce que vous avez comme activité. Mais quand la justice pénale laisse les gens dos à dos, prenez le cas de quelqu'un qui tue un autre pour l'arracher, peut-être son téléphone ou son ordinateur. On le prend, on l'amène au tribunal, le juge le condamne à 15 ans d'emprisonnement et on lui demande de payer une amende. Mais est-ce que on a réveillé la paix? Est-ce que l'âme de la victime repose en paix? Non. Or, dans la justice transitionnelle, on se préoccupe aussi bien du corps qui a disparu et de l'âme. Parce qu'au niveau de la justice transitionnelle, on fait ce qu'on appelle des libations. Quand on fait ces libations, c'est pour apaiser l'âme de l'illustre disparu. Et ça permet à la personne, au moins, d'aller reposer en paix.
Est-ce que c'est donc envisageable de, par exemple, aller récupérer le corps des bourreaux et de les fesser?
Non.
Parce que ça se fait aussi dans la tradition.
Oui.
De fesser celui qui est mauvais pour le corriger, fesser son corps sans vie.
Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, je crois que dans la justice, on a trouvé le bon moment. On le fait travailler pour nourrir la famille.
Je parle de ces bourreaux qui sont eux aussi décédés maintenant.
Ah ben, si on fait le cadavre, qu'est-ce que ça va réparer?
Peut-être que ça va apaiser les victimes, les parents des victimes.
Ça ne peut pas arranger. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de faire des libations. Donc, peut-être traditionnellement, ça peut être des animaux qu'on va immoler, on verse le sang. Et bon, peut-être traditionnellement, les spécialistes savent comment ça se fait. Ou si on se met dans la peau de nos religions révélées. Si c'est une prière musulmane qu'on doit faire pour pouvoir apaiser l'âme de la victime, on le fait. Ou c'est une messe pour le repos de l'âme qu'on doit faire, on le fait.
Bon.
Mais prendre le cadavre de la personne, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire.
Mais il y a un élément très important dans la justice transitionnelle, c'est la garantie de non-répétition.
Effectivement.
Et est-ce que ce n'est pas de loin l'élément le plus important?
Oui, j'allais en venir en citant les différentes étapes. La garantie de non-répétition. Aujourd'hui, c'est ce que je disais au Togo, c'est ce qui manque pour l'instant. Et cette étape devait être assurée par le dispositif qui a été mis en place en 2018, à savoir les maisons de justice qui sont implantées dans les coins reculés. Donc, il devait avoir, de mon point de vue, et c'est à cela que notre ONG est en train de travailler, que Ashkroun puisse être en relation avec les maisons de justice, que nous demandons qu'on puisse s'installer vraiment dans tous les villages et dans toutes les agglomérations, pour que les sensibilisations continuent sur la non-violence, sur le respect de la vie, sur comment on peut vivre ensemble dans nos différences, bien sûr en respectant nos us et coutumes. Et en le faisant ainsi, je pense que on pourra poser les bases de notre droit africain, parce qu'à partir de là, on fait le recensement de ces pratiques qu'on consigne dans les documents. Pourquoi pas ne pas les verser dans la Constitution? Et deuxièmement, ça pourra faire force de loi. Les juges pourront faire référence dans leurs différents jugements. Aujourd'hui, si je prends le cas du problème de sorcellerie, aucun juge ne peut se hasarder à trancher une affaire de sorcellerie.
Au Togo.
Au Togo.
Oui, parce mais que, au Bénin, ça se fait.
Oui, au Bénin, ils peuvent le faire parce qu'au Togo, il n'y a aucune disposition dans notre constitution. Au Bénin, eux, ils l'ont mis dans leur constitution et les juges font référence et ils peuvent trancher. Donc, nous sommes en train de dire que l'État togolais pouvait s'appuyer sur les maisons de justice pour faire le recensement des us et coutumes au niveau des maisons de justice qui seront versées dans la Constitution, comme nous sommes en train de passer à une nouvelle République. Là, ça permettrait de prendre en compte nos valeurs endogènes dans lesquelles nous nous retrouvons.
Mais honnêtement, je n'ai pas retrouvé le lien entre ces maisons de justice et la garantie de non-répétition.
Oui, mais les maisons de justice sont chargées de sensibiliser les usagers sur la non-violence, la violence sous toutes ses formes.
Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Qui mettrez-vous dans ces maisons de justice? Avec quel profil? Avec quel sens moral? Avec quelle qualification pour que ce travail-là soit bien fait?
Actuellement, si je veux décrire le fonctionnement actuel des maisons de justice, nous avons à la tête un médiateur conciliateur qui est aidé par un assistant juriste ou un assistant psychologue ou sociologue. Ces personnes sont bien loties pour pouvoir sensibiliser les usagers des maisons de justice sur la non-violence, le respect des droits des uns et des autres. Aujourd'hui, le Togo compte 18 maisons de justice sur toute l'étendue du territoire. Et il y en a, je crois, d'autres qui sont en vue. Alors, si on arrive à faire un bon maillage du territoire avec les maisons de justice, je suis convaincu que les personnes qui sont dans ces maisons de justice et qui les animent pourront relayer l'information de telle sorte qu'il n'y ait pas des exactions comme nous l'avons connu par le passé.
Donc, selon vous, les maisons de justice rentrent dans la justice transitionnelle?
Effectivement, effectivement.
Et ils seront payés par qui?
Et jusqu'à présent, les maisons de justice sont financées par la présidence de la République.
Est-ce que ça ne va pas encore grever notre état de dépenses qu'on peut... Ou alors, est-ce que c'est une invitation à fermer la justice classique?
Non, il n'y a pas... Au contraire, les maisons de justice viennent alléger la tâche des tribunaux et cours. Parce que quand vous arrivez dans les tribunaux, il y a des gens qui viennent pour question d'adultère, question de vol de téléphone, question de vol de mouton. Aujourd'hui, tous les commissaires, tous les CB, lorsque des gens viennent pour ces petits problèmes, ils les renvoient vers les maisons de justice. Et je dirais encore, les maisons de justice sont en train de permettre aux tribunaux et aux cours de pouvoir mieux trancher les problèmes mitoyens, surtout dans le foncier. Parce que dans le personnel des maisons de justice, il y a ceux-là qu'on appelle les personnes ressources, qui sont les sages et les chefs traditionnels, les garants des us et coutumes, qui maîtrisent mieux leur communauté, les coutumes de leur milieu, et qui peuvent apporter leur contribution pour résoudre ces problèmes. Alors, si on arrive à décanter ces petits problèmes-là des tribunaux, je crois que les magistrats auront peu de dossiers et ils feront vraiment de la célérité dans le traitement de ces dossiers. On réserve les dossiers des criminels et des autres formes d'exactions aux tribunaux. Maintenant, les petites choses là seront réglées par les maisons de justice.
Dans ce cas, pourquoi ne pas réhabiliter nos chefs traditionnels et leur confier ce travail-là? Parce que au moins, en principe, là je demeure encore dans les principes, ils sont quand même les garants de la probité morale. Est-ce que si on multiplie les maisons de justice là, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'avoir beaucoup de corrompus qui auraient des moyens de pouvoir brimer à leur façon maintenant les justiciables togolais?
Au contraire, avec les maisons de justice, on a réussi à avoir vraiment des résultats très probants. Sur plus de 2018 à 2022, pour toutes les affaires qui ont été apportées au niveau des maisons de justice, à 90%, on a eu des solutions. Mais ça n'a pas pour autant lésé les chefs traditionnels, parce que les chefs traditionnels ont toujours apporté les jugements dans leur milieu. Actuellement, les chefs traditionnels travaillent. Mais les gens se déportent dans les commissariats. Les gens se déportent dans les brigades de gendarmerie. Alors, toutes ces personnes qui vont vers les commissariats et les brigades de gendarmerie, on les réfère plutôt vers les maisons de justice où on arrive et on cause librement comme si on était sous l'arbre à parapluie, sans contrainte. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on va continuer par brimer quelqu'un. Parce que, pour le rappel, dans les maisons de justice, après une session, s'il y a conciliation ou la médiation a été concluante, on dresse un procès verbal. Mais si ça n'a pas été concluant, le médiateur et son assistant ou ses assistants réfèrent les deux parties vers le tribunal du ressort. Et là, ils seront face à la rigueur de la loi.
Bien, merci à notre invité, Dr Norbert Tchamba, pour nous avoir permis de comprendre que la justice traditionnelle peut être opérationnalisée autrement dans notre pays, avec les maisons de justice, avec une autre façon de régler les problèmes pour retourner à l'Afrique traditionnelle, avec une démocratie à l'africaine. Nous espérons le retrouver une autre fois pour continuer à échanger, pour que notre pays se porte mieux. Merci de nous avoir suivis. Et très bonne suite de journée à vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.